Bon, ben écoutez, nous sommes en direct à Chaïra en 2013, non, 23, pardon. Et il y a des choses qui sont enrouées quelque part.
Enrouées. Il manque quoi ? Le générique.
Il manque le générique.
Il manque la pleine voix de Philo. Oui. Mais nous allons nous en tirer. Mais nous sommes là.
C'est une expérience ce soir. Oui. Philippe a 13 ans et il est en pleine. Il est en pleine mue. Donc, c'est parole aux jeunes. On est vendredi soir. Vous êtes bien sur la clé des ondes, 90.10. Et c'est à Chaïra.
Vous n'êtes pas trompé, oui.
Non.
Donc, on essaye quand même le générique.
Eh bien, on va lancer ça, le générique. Allez, c'est parti.
Alors Philippe, j'ai pitié de toi. Je pense que je vais lire le sommaire. Au sommaire de cette édition, nous aurons un entretien avec Magali Della Souda sur les nouvelles femmes de droite, un enregistrement sur la lutte des Sephora contre LVMH et sa gestion flexible du personnel, ainsi qu'un entretien avec la réalisatrice Daniela De Felice lors de la présentation à Pessac de son film Ardenza. Donc, que de belles rencontres. Et clôtureront ce menu, comme d'habitude, la chronique internationale, l'éphéméride anarchiste de janvier et l'agenda militant. Mais tout de suite, nous lançons la chronique de la désobéissance, la chronique d'André Bernard. La parole est donc à Progrès et Esmeralda, oui, qui ont pour habitude d'animer cette chronique.
Voilà. Alors, la chronique s'intitule « Putain de vent ».
Des gros mots dès le début de l'année.
Ah, absolument. Putain de vent. C'est ce qui peut se crier spontanément quand on a l'impression que le vent, de façon délibérée, se fait désagréable avec nous. La jardinière, elle, interpelle ses plantes et ses fleurs aimablement. De même, on parle à son chat, à son chien. Mais quelquefois, on s'adresse avec colère à l'ordinateur qui est trop lent, etc. C'est là un comportement humain courant et pourtant bien étrange, pour une autre raison, car l'échange se révèle plutôt limité pour l'esprit. Sans doute, dans notre monde occidental, y eut-il un temps, au Moyen-Âge, où la communication sensible avec les animaux, avec les plantes et la nature en général était plus répandue. Par exemple, il était attribué à certains animaux, comme les cochons, devenus individus à part entière, une conscience et une responsabilité, puisqu'ils pouvaient être jugés par les tribunaux et condamnés pour une faute ou des dégâts divers. Avec le temps, s'est mis en place un naturalisme qui traite maintenant la nature et le règne animal comme une réalité complètement extérieure aux humains. C'est un effet de la science et de la religion qui installèrent une barrière entre nous et le reste du monde. Mais il n'en est pas de même, pas encore, peut-être, pour certains peuples amazoniens comme les Achoirs, étudiés par Philippe d'Escola et Alessandro Pignocchi, peuples qui vivent en grande osmose avec la vie extérieure. Les Achoirs seraient-ils poètes ? Ainsi, pour les Achoirs, écrit d'Escola, la nature n'existe pas comme une réalité séparée de la vie sociale. La plupart des plantes et des animaux sont, explique-t-il, dotés d'une intériorité qui rend possible la communication avec eux et permet de nouer avec les non-humains des relations régies par les mêmes conventions que les rapports entre humains.
Alors que l'historien, la tête encombrée de documents, déchiffrait le passé, le poète, à l'écoute du présent, disait l'avenir.
Dans notre monde occidentalisé, la raison première du verrouillage de nos sociétés a pour cause la suprématie de la sphère économique capitaliste qui transforme tout en marchandises, en objets, humains inclus, sclérosant tout cheminement autre. Mais il n'est pas dit que l'histoire soit condamnée à cette impasse, car il s'agit maintenant d'ouvrir des brèches. Pignocchi met en avant l'expérience de Notre-Dame-des-Landes, les apatistes et le Rojava, mais aussi les kibbutz et les diverses communautés libertaires qui ont échoué, essentiellement parce qu'elles étaient des isolats. Pour lui, il s'agirait maintenant d'organiser qu'il appelle une fuite offensive, constructive. Il poursuit, permettant d'expérimenter autre chose, d'imaginer d'autres façons d'être au monde. Lentement, trop lentement, mûrit une révolution dans les mentalités, dans la sensibilité des humains au vivant. Dans différents pays, des initiatives sont amorcées pour donner une personnalité juridique à des milieux de vie. La rivière Whanganui et la montagne Taranaki en Nouvelle-Zélande, la rivière Magpie au Canada, le fleuve Atrato en Colombie en sont des exemples.
L'eau qui dormait dans une cruche rêvait de vagues et de torrents. La cruche se brisa.
Il n'est rien dit de l'expérience des collectivités espagnoles de 1936. Faut-il attribuer ce manque à l'ancienne culture marxiste de Philippe d'Escola ? De son côté, il avance que l'État peut changer de nature, qu'une cosmopolitique nouvelle pourrait prendre forme d'un archipel mondial d'État sobre et fonctionnant selon le principe d'une démocratie continue, avec en leur sein un tissu de communes égalitaires. C'est ainsi qu'à l'imitation du dialogue entre David Graeber et David Van Grove, dont au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité, Descola et Pignocchi ont publié « Ethnographie des mondes à venir », une conversation pour décortiquer ces problématiques. Un échange quelquefois un peu jargonnant, mais est-il possible d'y échapper ? Les deux auteurs espèrent pourtant que, disent-ils, quelques exemplaires de leurs livres arrivent tout de même dans le rayon développement personnel des supermarchés. Mais un tel discours, sur un tel sujet, surtout dans sa forme et sa présentation, a peu de chances d'atteindre un lectorat populaire, même avec la bande dessinée qui accompagne le texte, où on retrouve les redites et répétitions des faux communs à une conversation orale familière. Pour autant, on avancera que l'anthropologie contemporaine est devenue un réservoir à, disent-ils, imaginer l'avenir comme un foisonnement de possibilités, et non plus comme un trajet unique et tout tracé vers le désastre. Serait ainsi abandonnée l'idée d'un renversement révolutionnaire soudain et global pour une conflictualité progressive et multiforme. Et, pour ne pas conclure, Philippe d'Escola nous dit « Il faut renoncer à l'idée que l'émancipation des opprimés ne peut être menée à bien que par une avant-garde qui penserait et agirait à la place des autres dans le but d'aboutir à la désagrégation de l'État. » Dans cette chronique, André Bernard nous parlait du livre de Philippe d'Escola et Alessandro Pignocchi, « Ethnographie des mondes à venir », paru au Seuil en 2022, 174 pages.
Un petit rebond sur cette fiche, de cette chronique de André.
Allez, allons-y pour le rebond. Alors peut-être une précision sur les auteurs du livre. Philippe d'Escola, qui est un anthropologue français, il a rédigé une thèse avec sa thèse avec Lévi-Strauss. Et parallèlement, il était chargé d'une mission et il a effectué son travail de recherche chez les Jivaro, chez les Achuar, en Équateur, entre 1976 et 1978. Il était en compagnie de son épouse, enfin celle qui est devenue son épouse, Anne-Christine Taylor. Il a donc dressé une critique du dualisme nature et culture et il a entrepris une analyse comparative des modes de socialisation de la nature. Alors, on rappelle qu'il est professeur émérite au Collège de France et qu'il a écrit alors, notamment « Les lances du crépuscule », donc son premier livre en 1993, puis « Par-delà, nature et culture » et par la suite « La composition des mondes », puis « Les formes du visible » en 2021. Pour Alessandro Pignocchi, quelques éléments pour mieux cerner son parcours. Lui, il est chercheur en sciences cognitives et philosophie de l'art. Il a terminé son doctorat avec une thèse sur les intentions du dessinateur et à partir de là, il s'est lancé dans la bande dessinée. Et on peut dire que ses romans graphiques sont inspirés des travaux de Philippe d'Escola. Alors, ce livre, en fait, se présente comme une conversation entre les deux auteurs. C'est une conversation libre. Et Pignocchi nous explique dans son avant-propos qu'il se plaçait, lui, au départ, dans la mouvance protection de la nature. Il avait voyagé en forêt amazonienne pour observer les oiseaux. Puis ensuite, il a lu le travail d'Escola et il a compris que la notion de nature est une construction sociale de l'Occident moderne. Que dit-il ? Protection de la nature et exploitation de la nature sont les deux facettes complémentaires d'une même relation d'utilisation. Et elles décrivent un rapport au monde où les plantes, les animaux et les milieux de vie se voient attribuer le statut d'objet dont les humains peuvent disposer à leur guise, fût-ce pour les protéger. Il y a eu donc une prise de conscience qui ouvre des perspectives politiques qu'il qualifie d'enthousiasmantes pour un partage de sociabilité entre tous les éléments. À partir de là, il contacte Descola, il part chez les Achoirs avec le livre de Descola. Mais la situation concrète pour que sa sensibilité d'écologie politique prenne forme, il la trouve sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où, dit-il, toutes les activités humaines se déploient en bonne cohabitation avec le non-humain. Il y a ici une prise de conscience de la conflictualité politique avec l'attaque opération militaire de l'État sur la ZAD. Et ensuite, il a invité Descola et à découvrir ces terres où on détricote la distinction entre nature et culture. Et de leurs conversations et débats sur les hachoirs, les luttes territoriales, l'état du monde, est née l'envie d'écrire ce livre. Peut-être, si on a le temps, on peut dire, oui, ce livre en fait, est composé de 11 chapitres, dont les titres sont autant de propositions. Peut-être tu avais quelques titres.
Le premier titre s'intitule « Politiser l'anthropologie de la nature » et il s'agit de dépasser la distinction nature-culture, évidemment. Le deuxième est le foisonnement des modes d'organisation sociale, est une critique de la vision d'une trajectoire unique, évolutionniste, et c'est là où ils font appel à David Graeber et Wendroff dans leur bouquin. Et toutes ces théories sont mises en perspective. Un autre des chapitres s'intitule « Territoires autonomes et États ». Et il est question d'une politique hybride entre type étatique et territoires autonomes. Alors c'est là où il est question de Notre-Dame-des-Landes et où les deux réfléchissent à ce que veut dire Notre-Dame-des-Landes et comment on peut imaginer, alors ça c'est leur problème, comment imaginer une déconstruction de l'État à partir de cette question de Notre-Dame-des-Landes. Donc les territoires qui s'agrégeraient autour de ces notions d'autonomie permettraient de changer le type de l'État et le type de structure étatique. Voilà. Et puis enfin, un des derniers chapitres concerne la diversité. La diversité qui est posée comme la seule valeur réellement universelle. Voilà. Alors que on avait pour habitude de mettre en jeu les structures. Je trouve plus mes mots.
Tu as perdu le fil.
Voilà, oui, j'ai perdu le fil. Voilà.
Ce que l'on peut dire, c'est que oui, les titres, chacun des titres, porte des propositions. Et qu'en fait, le livre est structuré en 11 chapitres, tu en as nommé quelques-uns. Ce sont des chapitres courts de 5 ou 6 ou 7 pages qui retracent le dialogue. Hein. C'est vraiment un dialogue entre les deux auteurs. les prises de parole sont tout à fait identifiées, comme dans, si c'était une pièce de théâtre. Et chaque chapitre est ponctué de planches dessinées de Pignocchi, alors c'est, puisqu'il dessine à l'aquarelle. Alors, ce sont des planches ou un dessin grand format. Et en fait, dans ces planches dessinées, en fait, ce sont des sortes d'historiettes, alors on pourrait qualifier d'anticipation. Enfin, ce sont comme des prolongements imaginés de situations actuelles qui mettent en scène alors des personnages assez curieux, un anthropologue Jivaro. Alors, c'est l'anthropologue Jivaro qui vient observer les Européens. Il y a une sorte d'inversion de symétrie de situation. Des enfants à qui on raconte l'histoire, genre science-fiction, des mésanges complètement rebelles, des hommes politiques contemporains très connus, Macron, les ministres, etc., qui renient le vieux monde et partent en quête de métamorphose dans des situations tout à fait cocasses et, bien sûr, assez impensables. Voilà. Donc c'est un livre assez, assez riche du point de vue de la matière et de la structure et de la manière dont il présente les arguments. On peut peut-être dire juste un mot sur ces Achuars qui sont un peuple amérindien qui vit dans l'Amazonie équatoriale, équatoriale ou équatorienne plutôt, entre Équateur et Pérou, et qui appartiennent justement au groupe appelé Jivaro. Enfin bon, mais ils récusent cette appellation d'ailleurs, parce qu'ils considèrent que c'est une connotation très négative et préfèrent s'appeler les Ainens, c'est-à-dire les personnes. Enfin, dans cette chronique d'André, il y a un petit caractère assez particulier, parce qu'André a placé sa chronique sous le signe donc, des Achuars et de leur représentation poétique du monde, et par deux fois, il a ponctué la chronique de poèmes brefs, une sorte de haïku, sont des écrits en ligne très courtes, en trois lignes courtes. Alors, il s'agit de ce qu'il a intitulé « Les dits d'Arès », qui sont un petit recueil qu'il a édité, me semble-t-il, en juillet 2020, oui. C'est ça, en juillet 2020. Et là, André renoue avec ses textes, avec l'expression poétique d'inspiration surréaliste que l'on lui connaissait dans son recueil « Ma chandelle est vive » ou dans les titres de ses tableaux collages. Il donne vie et parole à des objets ou à des animaux, en tout cas à des non-humains, comme disent Philippe Descola et Alessandro Pignocchi. Objets, animaux, éléments de la nature conversent entre eux et parfois les humains y sont mêlés. Alors, je crois que s'il nous reste un tout petit peu de temps, on peut en lire une minute.
Ah,
on
oui,
peut en lire
un, peu.
Un ou deux. Allons-y. Alors qu'est-ce
premier,
que tu as choisi
le premier est le bleu du jour. Le ciel noir de la nuit jalousait le ciel bleu du jour. Qui lui dit, tu sais, je suis quelquefois couvert de nuages, mais jamais je ne pourrai arborer les étoiles comme toi.
Alors un autre. Je suis celle qui fait déborder le vase, dit la goutte d'eau. Oui, une prétentieuse qui finira noyée dans l'océan, dit la nappe souillée.
La pluie et le soleil de leurs bienfaits envers les êtres vivants. La pluie et le soleil débattaient de leurs bienfaits envers les êtres vivants. Ouais, mais sans la terre, hein ? Dit cette dernière.
Et une dernière. La vie est courte, maugréait le vieillard. Encore faut-il pouvoir naître, dit l'œuf dans son coquetier. Bon, voilà. Voilà, donc ça c'était Les Dits d'Arès, série de poèmes, de courts poèmes sur trois lignes d'André Bernard. Et il nous a dit qu'il serait bientôt édité quelque part. Voilà, affaire à suivre.
Merci. Alors on va essayer de passer à un morceau de musique. Donc les auditeurs. On est parti pour...
A priori, le...
Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron au paradis. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire au débile que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeun entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Voilà, c'était donc François Béranger sur l'album Participe Présent, datant de 1978. François Béranger se fait connaître au début des années 1970, lors du renouveau de la chanson française portée par des thèmes contestataires, aux côtés notamment que de noms connus, hein, Dick Engarn, Catherine Ribeiro, Mama Béa, l'Occitan Jean Pauverdier. Des chansons comme Tranche de vie, L'Alternative, Rachel, Participe Présent et le blues parlé du syndicat l'impose comme une des voix militantes de cette époque. Et bah, ce blues parlé du syndicat va me permettre d'annoncer, pour, après la virgule, la partie débat d'actu animée par Rémi.
Alors, oula, j'ai du mal à m'entendre. J'ai un retour. Alors, on change de casque. Ouais. Oui, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, le débat d'actu, c'est une petite virgule sonore pour les auditorices de La Clé des Ondes et plus particulièrement pour les auditorices d'Achaïra. Eh bien, c'est une balade dans la ville et un petit cadeau au bout du compte. Alors, on va écouter cette petite balade dans la ville. C'est parti.
Dis donc, toi, tu as fini de faire les cadeaux de Noël pour toutes les personnes que tu aimes ?
Pas vraiment. D'ailleurs, je me demande s'il faut aimer pour Noël. En fait, je crois que cette année, j'aimerais faire un cadeau aux auditeuristes de La Clé des Ondes.
Et tu comptes faire quoi comme cadeau ?
Je sais pas.
Tu vas où, là ?
À la FNAC.
Pourquoi ?
Je sais pas, par habitude.
Non, mais là, t'as vu tout le monde, c'est pas possible. T'entends ? Non mais c'est une manifestation.
Ah ouais, ça gueule fort et en plus, il y a les drapeaux de la CGT.
On y va ? On va leur demander ce qu'elles font ?
Ok, allez, c'est parti.
Je suis Adeline, en fait je fais partie, je suis représentante de proximité, anciennement déléguée du personnel, sous la bannière donc CGT. Et en fait on est en train de manifester comme on avait fait l'année dernière pour avoir le 13e mois. Qu'on demande que le groupe Sephora fait partie, il faut savoir, du groupe LVMH. Et on est une des rares enseignes du groupe à ne pas avoir le 13e mois, donc c'est ce qu'on demande. Et de plus, cette année, on a rajouté l'accord du temps de travail. En fait, on était à 35 heures, comme beaucoup de boîtes. Et ils veulent nous l'annuler, refaire les 39 heures, payer 35. Toutes les heures en plus donc, seront ce qu'on appelle en modulation, en récup, donc pas payées. On pourra monter jusqu'à 16 semaines dans l'année, donc ce qui équivaut à 4 mois pendant les grosses périodes, jusqu'à 44 heures. Et nous paierons juste la 43e à la 44e heure. Avec des journées modulables, on pourra nous faire venir pour 4 heures ou pour 10 heures le lendemain. Donc pour, avoir une vie de famille, c'est un peu compliqué. On pourra nous changer 7 jours avant les emplois du temps, voilà, sans notre accord surtout. Donc au bout d'un moment, alors on ne gagne pas beaucoup, on n'a pas le 13e mois. Certes, on a des primes quand on travaille le dimanche, mais enfin, on est payé double, normal pour des travailleurs du dimanche en commerce. Donc en fait, là, on nous demande de travailler plus, de ne pas avoir plus, et ça va être super compliqué, quoi.
Alors, c'est une action nationale ou
Oui, c'est une action nationale. En fait, à Paris, toutes les personnes des Sephora de tout Paris se rassemblent à la même heure que nous, c'est de 14h à 17h, sur le parvis de la Défense. Voilà.
Est-ce que tu sais s'il y a une rencontre avec la direction, des négociations ?
Alors, il y a eu des négociations en cours. La dernière a eu lieu vendredi dernier. Donc, c'est pour ça qu'on attendait de voir. On s'est dit peut-être qu'ils vont changer d'avis, nous donner le 13e mois ou revoir l'accord sur le temps de travail. Mais en fait, non, ils ne veulent rien changer, ils ne veulent rien céder. Et cet accord va passer en début d'année. Donc, j'ai bien peur que ça passe. Et voilà. Alors, la CGT, il y a plusieurs syndicats chez Sephora. La CGT, on est les seuls à revendiquer ça. Pourquoi les autres ne le font pas, je ne sais pas. Mais voilà, donc nous, on essaye de se battre. Et là, on est à peu près, on était une trentaine des magasins de la région, Lac, Pessac, Bègle et rue Sainte-Catherine.
Oui, c'est pas mal. En tout cas, vous arrivez à avoir une belle mobilisation.
Oui, on arrive à avoir une belle mobilisation. Les filles, elles sont motivées. Alors, on sait que dans le commerce, c'est particulier. Les horaires, c'est pas facile. On le sait, sinon on n'y serait pas depuis 20 ans. Mais là, ça devient un petit peu contraignant quand même. Enfin, entre les horaires, le salaire qui ne suit pas, les filles, elles sont démotivées, quoi. Enfin, voilà.
Bon courage pour la suite. À bientôt.
Merci beaucoup, en tout cas.
Fort une mondiale, et nous on a que dalle.
Fort une mondiale, et nous on a que dalle. Fort une mondiale,
et nous on a que dalle. Fort une mondiale, et nous on a que dalle.
Un spécial big up pour les salariés de Sephora. C'était trop bien cette manifestation.
Bon bah tu vois, tu l'as ton cadeau pour tes auditeurs.
Ah ouais, c'était vraiment cool. Un Noël des luttes, c'est ça qui est cool.
Et oui, c'est ça. Fortune mondiale et nous, on n'a que dalle. C'était un beau petit moment de lutte et de colère. Et en voyant ces jeunes femmes devant l'enseigne Sephora, ça a vraiment donné envie de les soutenir. Donc, ce petit cadeau, c'est aussi pour les salariés de Sephora. Et bien sûr, à Shaira et à la Clé des Ondes, on est avec elles. On continue.
Donc là, c'est le débat d'actu d'une certaine façon. Et donc, un nouvel enregistrement de Rémi. Peut-être qu'on va lancer l'enregistrement de Magali
de la Souda
sur les nouvelles femmes de droite.
Alors, enregistré à la TD Libertaire à Bordeaux.
Alors tout à fait, c'était une conférence débat et donc il y avait aussi avec l'auteur du livre d'écofascisme, en fait ils étaient à deux pour organiser cette soirée. On va bien évidemment s'excuser auprès de nos auditeurs, mais le son, on a eu un petit problème de table, on a essayé de brancher, on a essayé de bien faire et en fait on a du bruit de fond, mais les propos sont toujours de qualité. Allez, on écoute donc cette conférence à l'Athénée Libertaire organisée par la librairie du Muguet.
L'Athénée Libertaire et puis la Clé des Ondes d'être là et le public d'être venu en nombre. Merci beaucoup. J'espère que voilà que nos discussions seront à la hauteur de la qualité de votre présence. On va dire ça comme ça. Effectivement, on est dans un moment spécifique du capitalisme. On est dans un moment spécifique aussi des clivages partisans et notamment de réalignement ou de transformation des droites radicales et des droites extrêmes autour de deux questions. La question du genre, et ça, je vous en parlerai tout de suite. Et puis la question de l'écologie, la question du genre pour différentes raisons, des raisons socio-économiques, des raisons culturelles aussi. On est dans un monde où depuis, par exemple en France, 79, on a ratifié la Convention pour l'élimination des discriminations entre les hommes et les femmes. L'égalité d'abord entre les sexes, puis entre les genres est un référentiel de l'action publique. On est dans un monde de valeurs égalitaires. Alors, des valeurs aux pratiques, hein, c'est comme de la coupe aux lèvres, il y a loin, puisqu'on est dans un monde aussi où, structurellement, le genre est un rapport social fondé sur les différences perçues entre les sexes, qui continue d'organiser et de structurer nos sociétés, qui continue d'organiser et de structurer le capitalisme, l'un et l'autre se nourrissant. Et les droites radicales, comme l'extrême droite, ne peuvent pas rester en dehors des préoccupations de genre. D'abord parce qu'il y a un projet égalitaire qui est porté, et c'est ce que certains vont désigner la théorie du genre, j'y reviendrai. Mais aussi parce que pour rentrer dans le champ politique et dans le jeu politique, et pour pouvoir vivre par et pour la politique, eh bien, il va falloir s'adapter. Et avec le durcissement de la contrainte paritaire, notamment en France, il va falloir, si on veut conquérir les urnes, ou en tout cas vivre de subsides du financement de la vie politique, il va falloir mettre des femmes en avant et les présenter notamment aux élections municipales en 2014, j'y reviendrai. Donc on a cet effet-là, puis un effet de politisation générationnelle aussi. On est avec des générations qui sont les petites filles, les petits... ou les filles de celles du baby-boom, et qui sont beaucoup plus sensibles à la cause de l'égalité. Et ça, c'est ce que montrent mes collègues sur les enquêtes d'opinion. Alors, on peut être critique sur les sondages, mais néanmoins, quand on les compare dans la durée, à une échelle de 40, 30 ans, et ben, qu'est-ce qu'on voit ? Une adhésion plus grande à l'idée d'égalité, une acceptation beaucoup plus grande... de l'homosexualité, etc., etc. Donc moi, j'ai des collègues qui disent qu'on a un certain nombre d'indicateurs, également sur le racisme, qui montrent globalement une progression des idées égalitaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a une traduction dans le champ partisan. Ce sont des choses bien distinctes. Et là encore, eh bien, ce qui se passe dans les droites radicales et à l'extrême droite, donc l'extrême droite étant incarnée par les partis politiques situés à l'extrême droite du spectre, on va le dire comme ça, et les droites radicales pouvant faire une incursion mais se mobilisant davantage dans ce qu'elles appellent la sphère métapolitique, l'idéologie, la bataille culturelle, et avec souvent un répertoire d'action qui peut aller jusqu'à revendiquer la violence ou l'illégalité. Et bien, dans ces espaces-là aussi, les jeunes générations, elles vont amender quelque peu les discours et, à défaut d'amender complètement le projet politique. Et puis le deuxième point, et on y reviendra dans l'échange, c'est cette question de l'écologie. Parce que nous sommes à un moment où, effectivement, les effets sur l'environnement produits par le capitalisme, par l'extractivisme, eh bien, sont palpables et perceptibles pour chacune et chacun d'entre nous, parfois au plus profond de notre intimité. Voilà, aujourd'hui, entre un couple sur trois et un couple sur quatre a des problèmes de fécondité. Alors on pourra dire c'est un soulagement. Hein. Chez les libertaires, il y avait un courant néo-malthusien émancipateur dès le 19e siècle. Voilà, ces mouvements-là ont été des pionniers pour émanciper et libérer les femmes du joug des maternités non souhaitées et pour assumer aussi un projet politique dans lequel la sexualité non procréative avait toute sa place comme vecteur d'émancipation pour les femmes comme pour les hommes. Mais néanmoins, c'est une expérience qui est souvent douloureuse. Et puis, on a tous ces cancers hormonodépendants, là encore, ces pubertés précoces chez les filles. Et puis, si pour reparler juste d'infertilité, quand ces troubles-là surviennent, c'est aux femmes hein, qui incombe d'en assumer la charge, même si c'est l'homme qui est concerné. Bref, donc il y a un effet de genre dans tout ça. Et pourquoi je vous en parle ? Eh bien, parce que ça a eu des effets aussi sur la manière dont ces nouvelles femmes de droite, et certaines d'entre elles, se sont imposées dans le débat public avec une rhétorique sur les perturbateurs endocriniens, sur la santé des femmes, et reprenant certains enjeux du féminisme. Alors rapidement, l'enquête, elle va naître au moment de la Manif pour tous, donc ce mouvement social conservateur qui est spectaculaire au sens propre du terme, qui est mis en scène, qui est préparé par des professionnels de la communication, avec un vrai travail d'invisibilisation de leur rôle, d'invisibilisation des mobilisations conservatrices qui les avaient précédées, qui étaient certes exceptionnelles, mais mobilisation de 84 pour l'école dite libre, la fameuse manifestation des mères de famille de 1902, alors personne ne s'en souvient sauf voilà, quelques obscures historiennes qui ont fait leur thèse sur les droites avant le droit de vote. Et on retrouvait, moi j'avais été frappée par les mêmes cadrages. On met l'enfant en avant, on met un péril pour l'humanité, on va se mobiliser en tant que mère, et donc les femmes vont être mises en avant comme participantes à la manifestation, alors que ce sont bien des organisations politiques masculines et une institution cléricale, hein, catholique, en 1902, qui porte la contestation. En 2012, la contestation de la proposition de mariage pour tous, quand François Hollande annonce qu'il va tenir sa promesse, et comme je le dis souvent, peut-être la seule qu'il aura tenue de son quinquennat, eh bien, elle suscite des réactions dans l'épiscopat, mais qui sont plutôt timorées. La manif pour tous, c'est vraiment une réaction des laïcs, hein, des associations familiales catholiques et bien d'autres qui vont donc mettre en scène la contestation. Et pour mettre en scène la contestation, qu'est-ce qu'elles vont utiliser comme cadrage, c'est-à-dire comme manière de présenter leur cause, pour ne pas être ringardes et délégitimées dans un pays qui est laïque, qui est largement sécularisé? Elles ne peuvent pas faire comme Meloni qui se présente en tant que mère, que chrétienne, ça c'est pas possible. En fait, on va avoir une représentation avec un cadrage qui est séculier, donc on va agir au nom de l'intérêt général, on va agir au nom de la République, on va des symboles républicains dans les cortèges, les femmes vont venir en Marianne, on va brandir le code civil. C'est une rupture pour les catholiques. Et puis on va avoir ce qu'on appelle en sciences politiques une représentation microcosmique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que la manif pour tous se présentait comme un miroir de la société dans toutes ses composantes. Donc il y aura plus gays sans mariage, les gays contre la loi Taubira. Il y aura homovox, les homosexuels, ceux qui refusent l'identité gay, mais se définissent comme homosexuels, qui vont être contre le mariage. Et puis il y aura les merveilleuses, ces mères qui vont faire des veillées le soir. Les sentinelles, les veilleurs, qui représentent la jeunesse éduquée, et qu'on va retrouver à la revue Limite, dont on parlera tout à l'heure, Eugénie Bastier par exemple, Marianne Durano, Gauthier Debesse. Et puis on va avoir les femmes, alors les women, qui à la fois protestent contre la loi Taubira, mais protestent aussi contre les transformations de l'espace de la cause des femmes et des féminismes, et l'apparition, là aussi spectaculaire, des femmes. Les women y répondent, mais aussi les Antigones, à leur manière, et articulant toutes les deux causes, hein, celle de la lutte contre le mariage homosexuel, et puis celle de la lutte contre les politiques d'égalité de genre. Je n'irai pas plus loin, mais c'est ce qui va se passer pendant la manif pour tous, c'est l'effet d'un mai 68 conservateur, la métaphore de Gaël Brustier est pertinente, puisque comme après mai 68, il va y avoir un travail d'unification des droites, plus ou moins fructueux, qui va passer par différents canaux. Et on va avoir des rencontres qui vont se faire dans la rue et dans les cortèges et qui vont permettre de donner une visibilité à cette nouvelle génération de militantes. Et on va voir dans ce mouvement des femmes être en position de leadership, soit dans les associations de la Manif pour tous, qui se dotent de porte-parole qui sont pour la plupart des femmes, soit dans les petits groupes dont je vous ai parlé, donc ces fameuses Antigones, et puis les veilleurs, les veilleuses, qui deviendront ensuite à la tête, enfin les, qui vont incarner ce courant politique de l'écologie intégrale dans leur revue Limite. Voilà, alors comment on organise tout ça? Pour moi, on est face à quelque chose de nouveau. Moi, je m'intéresse à ces femmes qui fonctionnent en non-mixité. Donc là, ça ne suscite pas de débat à droite, la non-mixité, contrairement à d'autres espaces de la gauche radicale. Et ce sont des femmes que je qualifie de nouvelles femmes de droite, parce qu'elles ne sont plus les femmes de droite telles que les a pensées, telles que les a appréhendées Andrea Dworkin, dont vous avez des ouvrages sur la table, donc théoricienne féministe que vous connaissez sans doute, nord-américaine, et qui essaie de comprendre la réaction extrêmement vive et populaire aux politiques d'égalité aux États-Unis, à l'Equal Right Amendment. Ces femmes de droite, aujourd'hui c'est bien connu parce que des historiennes ont fait un travail remarquable, ce sont des femmes qui sont issues des fractions les plus stables de la classe ouvrière aux États-Unis. Elles sont les générations du baby-boom. Elles travaillent souvent avant de se mettre en ménage. Elles font peu d'études. Et puis, une fois qu'elles se mettent en ménage, eh bien, c'est le style de vie des suburbs, donc américaines. On se retire du marché de l'emploi. Monsieur apporte le revenu principal du foyer. La vie est organisée autour des enfants et de la voiture et du petit pavillon. Ça a été aussi des trajectoires d'ascension sociale et de mobilité géographique, on y reviendra peut-être, en France, pour ces générations-là. Et bien entendu, ces femmes, ou plutôt pas bien entendu, ces femmes, le projet politique des féministes et des féministes qui s'identifient comme radicales, il vient bouleverser complètement le statut qu'elles ont, il vient bouleverser leur style de vie, et il vient bouleverser ce qu'elles concevaient comme leur sécurité. Et ça, Dworkin le montre très bien, c'est que pour elles, on introduit du désordre et de l'instabilité, et ça les met dans des positions insécures, et ces femmes se raccrochent à ce patriarcat protecteur, ou en tout cas qu'elles envisagent comme protecteur. Ce ne sont pas les femmes que moi j'ai pu rencontrer entre 2014 et 2020. Les nouvelles femmes de droite, celles qui sont en France et qu'on voit émerger à la faveur de la Manif pour tous, eh bien, elles sont jeunes, d'abord, elles n'ont pas d'enfants. Ce sont des étudiantes, comme certaines d'entre vous. Elles sont diplômées, et diplômées de grandes écoles très prestigieuses et très sélectives. Elles ont un destin social qui est désajusté, mais ça fait 40 ans qu'on connaît la crise, donc c'est plus une crise économique, c'est structurel, Et elles savent aussi, elles sont bien conscientes qu'elles ne vont pas avoir les destins sociaux qu'ont connus leurs parents ou leurs grands-parents. Elles sont face à un marché de l'emploi qui, pour certaines, pourrait leur proposer des situations rémunératrices. Et certaines vont d'abord occuper ces postes, quand moi je les rencontre. Mais elles sont désajustées par rapport à leurs valeurs et leurs orientations. Et elles ressemblent en cela beaucoup aux générations de néo-ruraux de l'après-68 ou du début des années 80. Qui ont été étudiées par Daniel Hervieux-Léger et son compagnon. Et c'est une référence intéressante parce que, effectivement, on y reviendra aussi, mais il y a des manières de s'engager qui vont changer, qui vont se rapprocher de ce retour à la terre dans leur parcours. Voilà où nous en sommes. Alors, comment j'ai organisé ma pensée? Je ne vais pas vous dévoiler l'intégralité du livre, parce que ce soir on est là pour parler de cette question de l'écofascisme ou d'écoféminisme conservateur, et on pourra discuter des concepts. Moi j'ai essayé d'ordonner toutes ces femmes et tous ces groupes qui surgissent comme ça après entre 2013 et 2019, on va dire, avec différents gradients pour représenter un espace qui est celui de la cause des femmes, au sein duquel les associations et les organisations majoritaires sont les féministes, les organisations qui agissent au nom de l'intérêt des femmes et qui se définissent comme féministes. Et puis dans l'espace de la cause des femmes, comme vous le savez, il y a toujours eu des femmes conservatrices qui ne veulent pas être féministes, qui se définissent parfois comme antiféministes, mais qui agissent au nom des femmes, voire en tant que femmes. Donc elles sont bien dans l'espace de la cause des femmes, mais elles sont à l'extérieur du pôle des féminismes, de cet espace-là. Elles sont même opposées aux féministes. Elles sont dehors. Là, ce qui est nouveau avec les nouvelles femmes de droite, c'est qu'il y en a qui vont tenter une incursion à l'intérieur et qui vont s'accaparer le label de féministe, toujours avec un petit qualificatif. Et ça, c'est important aussi. Et elles vont désigner les autres féministes aussi avec un petit qualificatif, et c'est souvent le préfixe néo qui va être utilisé. Donc quand vous entendez ce terme de néo-féminisme, ne vous y trompez pas, il vient vraiment du réarmement des groupes de droite radicale hein, et des conservateurs contre les politiques d'égalité de genre. Le néo-féminisme, c'est d'abord le spectre, c'est l'ennemi qu'on va se construire dans ces espaces-là pour se définir soi-même comme féministe, identitaire, occidentaliste, blanche, c'est un qualificatif assumé, intégrale. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Alors comment je les ordonne ? Je vais aller des plus fémonationalistes, de celles qui sont qui essaie d'articuler la cause de la nation ou de l'identité ethnoculturelle à celle des femmes, à celles qui sont finalement le plus préoccupées par la cause de l'environnement et qui vont essayer d'articuler la cause de la nature, de la défense de la nature, à celle des femmes. Et on verra qu'entre les premières, dont je parle dans le livre, et les chapitres s'ouvrent avec elles, les cariatides, qui sont la section féminine de l'œuvre française, alors... certaines et certains sont jeunes, mais vous vous souviendrez peut-être que l'œuvre française fut dissoute après l'assassinat de Clément Méric par un de ses militants, donc militant antifasciste. Et l'œuvre française se restructure dans ces années-là, avant cet épisode, parce que son dirigeant historique passe la main à Ivan Benedetti. Et elle accueille à ce moment-là des militants de longue date qui viennent d'être exclus du UFN, qui se... entre guillemets, dédiabolise, c'est mes collègues qui utilisent cette expression, avec la montée puis la désignation de Marine Le Pen à sa tête. Donc dans les droites radicales et extrêmes, il y a aussi des changements qui arrivent, tout est concomitant, et on voit apparaître le 25 mai 2013 les cariatides, donc branche féminine de l'œuvre française, qui va être la seule organisation à assumer un héritage historique des ligues que moi j'avais étudiées dans ma thèse, de la phalange espagnole et du franquisme qui va fleurir, hein, la tombe du maréchal Pétain, et qui a eu toute une iconographie aussi assez explicitement ancrée hein, dans la défense d'un projet politique non seulement réactionnaire, mais ancré dans les dictatures et les fascismes du XXe siècle. Je passe très rapidement, c'était tout petit groupe basé à Lyon, qui n'a jamais voulu répondre à mes sollicitations pour les entretiens. Je comprends pourquoi, puisqu'il y a une grande méfiance vis-à-vis de la science, de manière générale, plus spécifiquement vis-à-vis de la recherche en sciences sociales, qui est soupçonnée de gauchisme. Et puis, je pense aussi que les procès qui concernaient les camarades militants de ces milieux-là rendaient le recueil d'entretiens assez difficile, puisqu'elles devaient sans doute craindre des paroles à charge. Dans le gradient des plus fémonationalistes, vers la cause de l'écologie, qu'est-ce qui vient ensuite ? Ce sera les recompositions du Front National, Rassemblement National. Là, je n'ai pas vu d'entretien avec les militantes, mais j'ai observé donc la manière dont progressivement se construit tout un discours fémonationaliste. Ça avait déjà été étudié par Sarah Faris pour le FN. Cette association très très forte de l'idée que l'EFN va être le meilleur défenseur de la cause des femmes et notamment de la lutte contre les violences faites aux femmes, parce que le problème n'est pas le patriarcat. Le problème, c'est ce patriarcat exogène, importé, ce patriarcat musulman, là encore, d'une religion importée. Et on ne peut pas raisonnablement lutter contre les violences faites aux femmes, de ce point de vue-là, si on ne lutte pas contre l'islam et l'immigration non européenne ou non occidentale. Et l'artisane de ce recadrage, c'est une militante et une élue, Front National de Rhône-Alpes, qui va créer, sous le patronage de Louis Alliot, alors député, le cercle fraternité. Ce cercle fraternité va fournir un certain nombre de visuels de campagne pour 2017, hein, le vrai féminisme, c'est Marine Le Pen.
Voilà, cette interview porte à sa fin. Alors, on a été obligé de la couper puisque il y avait plus de 35 minutes d'intervention. On s'excuse encore. Hein, là, peut-être que vous avez monté le son à fond et là, vous entendez nos voix très fortes. On a essayé de récupérer ce son, mais on a été obligé de baisser pour éviter que la friture n'empêche de tout entendre. Voilà, donc vous êtes toujours sur la clé des ondes au 90.10, l'émission Achaïra, et on continue
en musique.
serait chouette les Jeux Olympiques, tous ces athlètes dans la foulée, pour un marathon fantastique, à la seule force du bonheur. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, l'émulation 62. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, sinon de Dieu il n'y avait. Leurs petits drapeaux, leurs petits fanions, couleur kaki, cacadois des frontières. Leurs petits drapeaux pour chaque nation qui claque au vent d'une musique militaire. Ce serait chouette les souvenez-vous, et n'oublie pas que la guerre est conne, les recueillements sur les trous où les soldats fusillés dorment. Ce serait chouette les souvenez-vous, les manifestations de paix. Ce serait chouette les souvenez-vous, sinon de Dieu il y avait. Leurs petits drapeaux, leurs petits fanions, leurs petits tambours qui donnent la cadence. Leurs petits drapeaux, leurs petits fanions qui claquent au vent d'une minute de silence. Ce serait chouette d'aller sur la lune, plus qu'à fondre le Pierrot. J'y emporterai bien ma plume pour vous écrire quelques mots. Ce serait chouette d'aller sur la lune, en vacances pour mille étés. Ce serait chouette d'aller sur la lune, sinon de Dieu il n'y avait. Leurs petits drapeaux, leurs petits fanions, pour cette fois ricain de préférence. Leurs petits drapeaux, leurs petits fanions, leurs petites étoiles, la grande ours en balance. Ce serait chouette si tous les drapeaux voulaient bien se donner la hampe. Ça ferait des pyjamas très beaux, des soutiens-gorge pour les vampes. Ce serait chouette si tous les drapeaux finissaient un jour drap de lit. Il faut que tu me... On y ferait l'amour bien douchant avec les filles de leur pays. Avec les filles de leur pays. Avec les filles de leur pays.
Les Jeux Olympiques 2 et par Henri Tachan. Henri Tachan, il est ignoré par une grande partie des médias dès le début de sa carrière dans les années 60, car ses chansons sont très critiques vis-à-vis de la société et de certains de ses travers. Pourquoi nous avons choisi celle-là ce soir ? Parce que les Jeux Olympiques retrouvent une actualité avec tout ce que nous venons de vivre avec la Coupe du Monde de football au Qatar et bientôt les Jeux organisés à Paris, avec leur lot d'exploitation de travailleurs et de travailleuses, souvent jusqu'à la mort, dans l'indifférence générale, et sans parler du déferlement de sentiments nationalistes poussés à l'extrême. D'où les petits drapeaux de Henri Tachan. Vous écoutez Achaïra, émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes, 90.1 MHz. Ben, nous enchaînons sur la chronique de l'invité, avec Progrès et Esmeralda. Donc, une chronique cinéma.
Eh bien, avec l'enregistrement de l'entretien de Daniela De Felis pour le film Ardenza.
Voilà, puisque nous l'avons rencontré.
Bonjour Daniela De Felis, nous sommes enchantés de te voir ici au cinéma Jean Eustache, qui est réalisatrice, mais pas seulement, monteuse, preneuse de son, tu fais aussi du mixage, en fait, tous les métiers du cinéma sont pour toi quelque chose de familier, et nous te voyons dans les génériques, à différents postes, mais ce soir, tu es là en tant que réalisatrice pour ton dernier film, en date, qui s'appelle Ardenza, je ne sais pas si je prononce bien.
Très bien.
Voilà, et qui est un beau film qui va être présenté tout à l'heure dans le cadre d'une soirée ciné-réseau. Mm-hmm. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton projet de ce film ?
Alors, Ardenza, qui veut dire en italien « là où ça brûle », et qui était c'était le quartier où habitaient mes grands-parents, qui était un quartier à Livourne où autrefois on brûlait les pestiférés. Et j'ai bien aimé donner ce mot à ce film qui est vraiment un film sur quelque chose qui s'embrase et qui se consomme. Alors Ardennes, c'est un film sur, sur la jeunesse, ma jeunesse, et c'est un film sur l'engagement politique et sur la façon dont une jeune fille rentre dans l'engagement politique, mais aussi dans le monde des adultes, par des rites de passage qui sont ceux de, des occupations, des manifestations, mais
des occupations de,
d'université, ouais, de lycée, plutôt.
De lycée, là,
ouais. Ouais,
et parce qu'elle est très jeune, la jeune,
oui, voilà.
La jeune fille, quand on,
tout
on
à
commence
fait.
À la suivre. Elle est
tout
jeune,
à ouais. fait. Et l'idée, c'est vraiment de raconter la façon dont la découverte amoureuse et sensuelle va d'une façon symétrique avec l'engagement politique. Et je voulais vraiment raconter la trajectoire d'une jeune fille parce que bah, j'étais à un moment de ma vie où mes filles avaient exactement cet âge-là, d'être au lycée, et je voulais qu'elles puissent voir un film où on pouvait raconter l'engagement féminin. Parce que, comme vous le savez très bien, l'engagement politique est aussi mis en jeu et mis en situation du corps, dans les manifestations, dans le fait d'occuper un lycée, dans...
De prendre la parole.
Tout à fait. Mmh. Et j'aimais bien cette chose qui était... j'avais l'impression de ne pas avoir vu ça au cinéma, en fait, de ce récit, de comme une sorte de mode d'emploi, de l'engagement politique et de la façon dont, au fur et à mesure, dans sa complexité, la parole pouvait naître et pouvait amener cette jeune femme à être engagée. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi sur la question de la naissance de la parole et de cette aisance que j'ai acquis au fur et à mesure à être à la tribune, à pouvoir manier les idées politiques, à pouvoir les diffuser, à pouvoir en débattre et être d'accord ou pas d'accord avec les autres. Et voilà, le projet de ce film, c'est vraiment ça. Oui.
Mais il se situe à un moment historique très particulier de l'Italie.
Tout à fait. Alors, c'est les années 90. Moi, je suis née en 76 à Milan. Pendant les années 90, donc toute la montée de Forza Italia, donc la prise de pouvoir de Berlusconi avec son parti Forza Italia, un parti extrêmement conservateur. Donc, on va dire 92-93. Et quand j'ai fait ce film, j'ai cru qu'en fait, les images que je pouvais mettre de Berlusconi étaient une sorte de presque de, comment dire, objet un peu désuet, un peu vintage. Il se trouve que pas du tout, qu'en Italie, il vient d'y avoir des élections et que Berlusconi était encore au centre du jeu politique, qu'il distribuait les pouvoirs et que par ailleurs... Giorgia Meloni était élue, qui elle représente une droite extrême qui se revendique du fascisme, puisqu'ils ont dans leur logo encore la flamme du MSI, oui. Le Movimento Sociale Italiano. Et son premier acte politique à Giorgia Meloni était celui de interdire les rave parties pour pouvoir par la suite interdire aussi les occupations de lycée, les occupations d'université, les manifestations, en tout cas tout ce qui était le fait de pour des jeunes de se retrouver,
oui, et tout
de
ce pouvoir, qui est collectif, la dimension voilà. collective et ouais. de construction au travers d'un collectif. En fait.
Et donc, hélas, une fois le film fini, moi j'aurais aimé que ce soit comme une sorte de portrait d'instantané d'un moment bien précis qui était celui des années 90, mais en fait rien n'a changé et qu'au contraire aujourd'hui la situation elle est tout aussi terrible. La trajectoire, la période que le film raconte, c'est vraiment entre le début de la prise de pouvoir de Berlusconi jusqu'au fait de Gênes. Avec avec ce personnage qui est enfermé en asile psychiatrique avec un traitement obligatoire de médicaments et qui par la suite a eu vraiment une vie brisée par ces faits-là. Donc le film, il est vraiment tout à fait ancré dans une trajectoire politique et dans un point de vue qui est le mien et qui est celui de la naissance et de la structuration d'une révolte. Donc cette séquence avec les policiers, avec cette question de l'intimidation, pour moi, elle était, j'avais vraiment envie d'intégrer ça dans un film. Parce que même si ce film n'est pas un mode d'emploi pour l'occupation, pour l'engagement étudiant, j'avais quand même envie qu'on puisse reconnaître ce genre d'attitude et qu'on puisse éventuellement, en l'ayant vu, reconnaître dans sa vie quotidienne qu'est-ce qui est une intimidation policière, par exemple. Donc voilà, c'est vrai que la question de l'engagement politique bâtit tout le film et finalement le mouvement du film, c'est aussi de raconter, enfin en tout cas de questionner là où s'arrête en fait l'engagement. Et j'avais aussi envie, là plus spécifiquement dans le film, de raconter aussi finalement avec le regard de l'après, peut-être quelques regrets par rapport au fait de parfois avoir été un peu trop, avoir eu des pointes de vue un peu à l'emporte-pièce, et que finalement le regard d'adulte est aussi le regard de la nuance et de la compréhension, et aussi de la compréhension des questions de classe. Je pense notamment au personnage de Christina dans le film, qui en fait est issue d'une famille ouvrière et qui finalement trouve que l'engagement étudiant est une coquetterie de bourgeois.
C'est ce qu'il dit. Ouais.
Et je trouvais ça bien aussi de raconter ce côté-là et de pas être dans une sorte de fétichisation totale de la lutte ou quelque chose qui serait une sorte de rapport. D'exploit de la lutte. Voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter la complexité des choses et le regard après coup.
Et bon, alors, c'est vrai que là, on a parlé de la dimension politique du film. Il y a aussi une dimension esthétique qui porte tout ce propos. Et qui est magnifique sur la base de dessins à la plume et avec de l'aquarelle, puisque tu proviens du monde des beaux-arts, c'était ta formation première, et là il y a donc du dessin qui se fait en direct sous nos yeux. Comment est-ce que tu le fais jouer, ce dessin, tu le fais évoquer des personnages qu'il aurait été plus difficile de camper?
Oui, il y a ça, il y a cette question-là de l'archive que je n'avais pas, mais pas seulement, c'est le dessin permet une identification, je pense, plus importante, puisqu'il est par essence de l'écriture. Et puis, j'avais envie que le spectateur soit à la place de mes yeux quand je dessine. Donc en fait, j'ai mis la caméra entre mes mains et mes yeux, ce qui était un peu compliqué en termes techniques pour pouvoir filmer. Mais je voulais susciter ce vertige qui est celui de regarder une feuille blanche et tout d'un coup, le dessin amène une image et cette image, elle a son énergie, elle a son existence, elle a sa texture, elle a son pouvoir d'évocation. Et c'est aussi pour finalement, c'est aussi une sorte de cinéma qui est extrêmement autarcique. Qui est un cinéma qu'on peut faire, alors je ne dis pas tout seul parce que je n'ai pas fait ce film tout seul, j'ai un producteur, Marc Fay, j'ai un chef opérateur, Mathieu Châtelier, une monteuse, Mona-Lise L'Enfant, donc je ne suis pas toute seule dans ce film, mais le dessin est un moment comme ça privé dans l'atelier où tout d'un coup je suis presque dans un état monocellulaire du cinéma, une sorte d'état préhistorique où l'idée d'évocation provoque un dessin et l'image elle est déjà là sans avoir, enfin elle correspond au désir du dessin, de l'image, et elle ne doit pas mettre en place une industrie supplémentaire. Mmh. Je ne dois pas aller chercher de l'archive ou remettre en scène les choses ou payer des comédiens pour qu'ils remettent en scène les choses. Voilà, tout ça, c'est des pratiques du cinéma qui sont très intéressantes. Mais moi, j'essayais de faire un film qui était le plus autonome possible dans ce travail-là. Et je voulais aussi que le spectateur... Les dessins sont assez simples. Je voulais que les spectateurs se disent, mais au fond, moi aussi, je peux quelque part, par acte d'écriture et de dessin, évoquer la jeunesse, évoquer quelque chose, évoquer l'engagement. Et je voulais être dans une très grande simplicité. En fait. C'est ça, le projet.
Oui, mais c'est vrai, ça donne envie soi-même, effectivement, de prendre la plume. Et, bon, ce ne sera certainement pas aussi réussi, mais c'est vrai qu'il y a une simplicité du trait qui est vraiment très... qui est également émouvant, parce qu'on voit apparaître les visages, on voit apparaître les objets. Voilà, c'est vrai, il y a un pouvoir évocateur très clair. Quoi.
Et à un moment donné, tu dis que tu as fait 700 dessins, que c'est au montage que tu as sélectionné ceux qui te paraissaient les plus porteurs de la narration, d'une certaine manière.
En fait, le travail du film a duré 5 ans. Voilà, il y avait ce texte, et puis les dessins qui sont une sorte d'écriture. Enfin, pour moi, les dessins correspondent à l'écriture. Et j'en ai fait 700, mais c'est pas du tout une organisation de travail comme pour un film d'animation avec un plan de tournage. Ça fonctionne vraiment par planche, par énergie de planche, par journée. Et on n'est pas dans un rapport d'illustration d'une séquence, on est plutôt dans un rapport de tout d'un coup d'évocation et de mise en scène par le dessin de quelque chose. En effet, il y a eu ces 700 dessins qui sont finalement chaque planche a 12 dessins. Et ensuite, ce travail-là, le travail a été de réduire et de pas être dans la répétition, mais d'être dans l'évocation et pas être non plus dans la redondance, pas être dans l'illustration. Et ça, c'était vraiment... c'est un travail qu'on a mené avec Mona sur comment organiser l'énergie des séquences, comment être parfois en contrepoint avec ce que le texte dit, avec l'énergie du texte. Et puis, tout à l'heure, j'ai évoqué mes collaborateurs... Et puis il y a eu le travail de tout le travail de son. Moi j'ai fait des prises de son, j'ai fait des tournages sonores avec un outil, un petit enregistreur stéréo. Et après avec Xavier Thibault, on a fait toute la construction du son qui vient quand même donner du corps au dessin. Parce qu'en plus c'est pas de l'animation, ce ne sont pas des dessins en mouvement, ce sont vraiment des dessins à l'arrêt. Et puis, il y avait cette partie où, évidemment, je ne pouvais pas le faire tout le temps, mais j'avais envie qu'à des moments bien précis du film, on puisse partager cette espèce d'intimité qui est celle de l'atelier du dessinateur et qu'on puisse se mettre presque, correspondre à mes yeux et que je puisse prêter mes mains au spectateur qui puisse faire l'exercice de dessin au cinéma. Enfin, en tout cas, c'était de ce déplacement du point de vue.
Très bien. Eh bien, c'est tout à fait réussi. Merci beaucoup pour toutes ces indications, ces illustrations. Et puis, voilà, nous allons tout à l'heure voir le film avec le public. Donc, rappel pour nos auditeurs, c'est le film Ardenza. Et la réalisatrice Daniela De Felis, que nous venons d'écouter. Voilà. Dont nous avions eu le plaisir de projeter déjà le précédent film, Casa.
Il y a quelques années, il y a presque 10 ans.
Oui.
Moi, je salue le travail de Ciné Réseau, qui est un travail très, très, très intéressant et pointu. Donc, voilà.
Bon, ben, tout le monde est content. Allez.
Merci.
Voilà, c'était notre rencontre avec Daniela De Felice, réalisatrice franco-italienne. Et nous pouvons rajouter que Daniela a travaillé pendant longtemps sur un projet
de documentaires qui auraient tourné autour de la région de Carrare et des exploitations de marbre, avec un film où elle voulait partir sur les traces des anarchistes italiens, puisque bon, il est maintenant mondialement reconnu que pendant des siècles, le marbre a été le centre de l'activité économique de cette région, et qu'il a également, nous disent les textes, sculpté l'identité sociale, politique et culturelle de Carrare, berceau de l'anarchisme à l'italienne. C'est pas beau, ça ?
Donc, nous l'avions d'ailleurs évoqué dans l'éphéméride de l'émission précédente.
Voilà, voilà.
Et producteur du gras de Colonnata, qui est très très bon. Aujourd'hui, les touristes vont acheter des saucisses, mais il y a des drapeaux noirs et rouges partout. C'est un peu le paradoxe du tourisme de masse.
Voilà, bon, c'est saucisses servies sur marbre, alors, hein, voilà.
Mais elles ne
sont
pas noires et rouges.
Pardon ?
Elles ne sont pas noires et rouges.
Je pense qu'ils sont capables de le faire.
Bon, ça viendra peut-être. En tout cas, bon, voilà, c'était un projet de film de Daniela qui, pour l'instant, n'a pas abouti. Mais peut-être qu'un jour viendra. Voilà.
Mourir pour Mbappé, perspective alléchante. Pour qui n'est pas né là et qui est né palé. Main d'œuvre à bon marché, entassée dans des tentes. Vous avez tout construit avant de nous quitter. Oui, vous avez trimé par une chaleur ardente. Pour vous, y a pas eu de clim pour plaire à la FIFA. Soyez content d'avoir préservé le climat. Mourir pour Mbappé, d'accord et par 50, d'accord et par 50. Sans doute l'ignorez-vous, mais c'est un grand honneur d'aller vers l'autre monde, une truelle à la main. Au moment du trépas, surtout n'ayez pas peur, Vishnu au Nirvana vous accueillera très bien. Et nous, pour des raisons religieuses évidentes, l'alcool étant banni au sein de nos frontières, on n'a malheureusement pas pu vous mettre en bière. Mourir pour Mbappé, d'accord et par 50, d'accord et par 50. Toutes les plus grandes équipes viennent jouer à la baballe. Ah, c'est quand même autre chose que Châteauroux-Nancy. Vous pouvez être fier dans votre pierre tombale d'avoir rendu heureux Neymar, Giroud, Messi. Et nous, comme notre équipe de foot est décevante, heureusement qu'on a pu organiser le tournoi. C'est par ce seul moyen que l'on se qualifie. Mourir pour Mbappé, d'accord et par 50, d'accord et par 50. À tous les rabat-joie, adeptes de polémiques, qui depuis quelques mois ruaient dans les brancards. Patientez donc un peu, avant d'être critique, on fera le bilan, c'est promis, mais plus tard. Ne précipitons rien et soyons dans l'attente. Oui, comme on dit chez nous, on n'est pas à la minute. Il ne faut pas mettre la charia avant les buts. Mourir pour Mbappé, d'accord et par 50, d'accord et par 50.
Mourir pour Mbappé par les Goguettes. Les Goguettes, donc là, ils étaient deux, hein, la pianiste et le chanteur, mais normalement, les Goguettes, c'est un trio à quatre. Ils se prennent pour les... ils se prennent pour les mousquetaires. Donc, sur l'air de mourir pour des idées de Georges Brassens, ils reviennent sur le scandale de la dernière Coupe du Monde de foot au Qatar. À regarder autant qu'à écouter, car c'est un clip que vous pouvez retrouver sur YouTube. Les Goguettes, donc en trio mais à quatre, c'est un groupe de musique français formé en 2013 et spécialisé dans des reprises parodiques et humoristiques de chansons de variété française. Vous écoutez toujours Achaïra, émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes, 90.1 MHz. La chronique internationale présentée par Philippe et peut-être à plusieurs voix parce que Philippe, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, a quelques difficultés. Donc dans cette chronique de janvier 2023, donc la chronique internationaliste d'Achaïra, nous voyagerons de combats en répression de Grande-Bretagne au Kurdistan, de Russie en Grèce, du Danemark en Italie et pour finir en Palestine, car il s'agit bien d'affirmer notre solidarité par-delà les frontières que nous n'avons pas choisies.
En Grande-Bretagne, c'est la grève générale ? Point d'interrogation.
Mais non, mais non, mais ça s'en rapproche, car la vague de grève se poursuit. Les syndicats rails, maritimes et transports, dont les chemins de fer, et communications, workers, dont la poste, sont dans un cycle de grève successive depuis 6 mois. Les syndicats des travailleurs de l'État et des services publics ont gagné le scrutin pour la grève dans plus de 100 centres à travers le pays. La grève des infirmières, le 15 décembre, a été médiatisée depuis sa création. Il y a 106 ans, c'était une première grève nationale du syndicat Royal College of Nurses. Dans de nombreuses villes, des manifestations sont organisées, rassemblant les secteurs en grève, mais aussi de nombreuses personnes qui les soutiennent. L'Union nationale de l'éducation pour les enseignants et le syndicat des sapeurs-pompiers préparent des grèves pour janvier. À tout cela s'ajoutent diverses grèves locales. Officiellement, l'inflation se situe entre 11 et 14%, mais la population sait bien qu'elle le vit, que l'augmentation des prix touche plus encore les produits de première nécessité. La pauvreté augmente, l'espérance de vie diminue, les capitalistes nous exploitent toujours plus. En Grande-Bretagne comme ailleurs, la solidarité est notre arme.
Des Kurdes, ils sont encore tués en Turquie.
Mais non, c'est pas en Turquie. C'est encore à Paris que ça s'est passé. Le vendredi 23 décembre 2022, un homme de 69 ans a ouvert le feu sur le centre culturel d'Ahmed Kaya, dans le 10e arrondissement de Paris. 3 personnes ont été blessées, 3 autres tuées. Emin Kara, connue sous le nom d'Evin Goyi, est une militante féministe depuis 34 ans, appartenant au mouvement de libération des femmes kurdes. Elle est née en 1974 au Bakour, le Kurdistan de Turquie. Et elle adhère au PKK en 1988. Emin Kara était une ancienne combattante contre Daesh et une des responsables du mouvement des femmes kurdes. Mir Pervers, Sirin Aydin, était un musicien persécuté en Turquie où il fut condamné à 20 ans de prison pour sa musique engagée. Et Abdurrahman Kizil était un militant dont le centre culturel de Paris était devenu la deuxième maison.
Le jour du massacre, le tireur arrive au moment où est prévue une réunion d'une 60aine de femmes kurdes. C'était la préparation de la commémoration du 10e anniversaire de la mort des 3 militantes kurdes de Turquie, Sakin Kanzis, Fidan Dogan et Leyla Soylemez, assassinées dans le même arrondissement de Paris le mercredi 9 janvier 2013. Si l'implication des services secrets turcs MIT ne fait aucun doute pour l'attentat de 2013, la justice n'a jamais été rendue. Avec l'assassinat d'Emin Kara, c'est la 2e fois en 10 ans que des militantes kurdes sont brutalement visées en plein cœur de Paris, alors même que leur vie entière a été un combat contre le patriarcat et le fascisme de l'État turc.
Samedi 7 janvier 2023 à Paris, comme dimanche 8 janvier à Bordeaux, il y a eu des rassemblements pour exiger du gouvernement français qu'il fasse toute la lumière sur le triple féminicide des militants du mouvement de libération Kurdistan, que l'on a cité, Fidan Dogan, Sakine Kanziz et Leyla Selmez, et en hommage aux victimes de l'attentat du 23 décembre, pour qu'ils reconnaissent non seulement le caractère raciste, mais aussi le caractère terroriste et calculé de l'attentat du 23 décembre contre l'Académie des Arts et Cultures du Kurdistan. Malgré les promesses du gouvernement de l'époque, les autorités françaises n'ont jamais cherché à faire la lumière sur ce triple assassinat. Toujours soucieuses de préserver leurs relations avec la Turquie, elles n'ont même pas eu la décence de recevoir les familles des victimes, ni les représentants de la communauté kurde.
En Russie, C'est donc la trêve pour le nouvel an orthodoxe ? Toujours point d'interrogation.
Et non encore, il n'y a jamais eu de trêve, ni dans la guerre en Ukraine, ni dans la répression à l'intérieur même de la Russie. Il n'est que de lire l'Observatoire des armements sur les réfractaires. Près de 21 000 arrestations et au moins 378 accusés dans des affaires pénales pour déclarations et discours anti-guerre. Plus de 200 000 ressources Internet bloquées et 11 condamnations pour trahison. 141 personnes ont été arrêtées grâce au système de reconnaissance faciale des camarades de sécurité du métro de Moscou. Entre le 24 février et le 12 décembre, l'ONG russe OVD Info a enregistré au moins 8500 détentions administratives de femmes pour avoir exprimé des positions anti-guerre sous diverses formes, soit environ 45% de toutes les détenues dont les noms sont connus.
Un activiste a été condamné à une amende de 45 000 roubles pour discrédit de l'armée en raison d'un piquet solitaire tenant une feuille de papier présentant 8 étoiles. Le tribunal a estimé que c'est ainsi qu'il avait encodé les 8 lettres russes du slogan « Non à la guerre ». Depuis le 21 décembre 2022, une loi punit l'incitation au sabotage d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à la perpétuité, sans doute pour lutter contre les incendies incessants de bureaux de recrutement militaire. En 2022, 90 journalistes ont été déclarés agents étrangers. 88 Russes mobilisés qui ont refusé de retourner sur la ligne de front sont retenus de force sur le territoire de l'ancien camp des enfants Berioska, dans la région de Loussank, selon la chaîne Astra. Et un tribunal confirme à Kirill Berezin, un objecteur chrétien, que les mobilisés n'ont pas le droit d'effectuer un service civil, pourtant garanti par la Constitution. Refuser le droit à l'objection de conscience en temps de guerre, n'est-ce pas comme reconnaître le droit d'IGV à condition de ne pas être enceinte ?
Point d'interrogation, comme dirait Thierry.
Comme dirait Thierry.
La Grèce, oui, la Grèce. C'est de belles îles ou la répression ? Toujours point d'interrogation.
Eh bien, écoute, avec la mort de Vassili Magos, on n'est pas très loin de la Russie et de la Turquie, pour les méthodes policières, et pas très loin de la France non plus, on le verra. La police a agressé Vassili Magos à coups de pied et de matraque le 14 juin 2020 lors d'une manifestation écologiste. Les CRS l'ont ensuite emmené en garde à vue, et lorsqu'ils en ont terminé avec lui, il avait 7 côtes fracturées, le foie et la vésicule biliaire contusionnées, et quelques semaines plus tard, il a été retrouvé mort. Il avait 26 ans. Vassili Magos avait rejoint la lutte des habitants de Volos contre le projet d'une nouvelle usine destinée à transformer des déchets commerciaux en combustible pour la cimenterie Hercule. Mais Hercule a été classé par l'Agence européenne pour l'environnement au 10e rang des pires sites industriels de Grèce en termes de pollution atmosphérique et d'impact sur la santé publique. Le registre des crimes et délits de préfecture de Volos indique que Vassili Magos a été placé en garde à vue parce qu'il était soupçonné de vouloir commettre un crime et parce qu'il était connu en tant que militant anarchiste pour son activisme dans divers collectifs et son comportement généralement délinquant. Le registre indique aussi qu'il a été détenu en utilisant la force strictement nécessaire. Mais la violence policière qu'a subie Vassilis ne laisse pas de place à la spéculation puisqu'elle a été filmée par la caméra d'un téléphone portable et que la vidéo montre clairement l'usage excessif de la force. Ses soutiens continuent d'affirmer « Vassili Magos est toujours présent dans nos luttes, comme Rémi Fraisse ici ». C'est détaillé dans Le Monde Libertaire de janvier 2023, en page 22.
En matière de tabassage policier, heureusement dans ce cas-là sans entraîner la mort, citons le passage à tabac de Mathieu Rigouste à Toulouse dans la nuit du 21 au 22 janvier 2013. 10 ans plus tard, il passait en procès le jeudi 5 janvier pour violence et outrage, alors que c'est lui qui a passé 2 jours à l'hôpital pour une fracture du poignet gauche cassée par les menottes, la tête enfoncée contre un mur avec un traumatisme facial, un œdème périorbital et une contusion à la cheville droite, et rien pour les policiers soi-disant violentés. Et ajoutons que Mathieu Rigouste, nous l'avions reçu dans une émission en 2020.
Novembre 2020.
Voilà, puisqu'il était venu présenter son livre à la librairie du Muguet à l'Athénée Libertaire, Un seul héros, le peuple.
Voilà. Bon, continuons notre chronique internationale.
Le Danemark. C'est pour le poisson fumé ? Point d'interrogation. Fumer.
Bon, parlons ici plutôt de squat, de hachiche et de petite fumée. Le Monde libertaire de janvier 2023, pour sa série de pas de côté, rappelle l'expérience communautaire à grande échelle du village de Christiania, le grand squat de Copenhague. Un exemple d'auto-organisation à l'échelle d'un quartier depuis 1971. En 2022, le terrain appartient à une fondation dont le seul but est de permettre aux milliers de christianites de continuer à vivre selon leur mode de vie anti-autoritaire et décroissant. Un demi-siècle d'existence quand même.
Ben enfin, voilà au moins une bonne nouvelle.
Voilà, dans ce lot de...
Et pour terminer, une question sur le Danemark. Et si le Danemark, ce n'est pas le poisson fumé, l'Italie, au moins, c'est le pasti et les antipastis?
Et non, malheureusement, c'est aussi une grève de la faim. Depuis le 20 octobre 2022, Alfredo Cospito est en grève de la faim dans la prison de Bancali en Sardaigne, contre le régime d'isolement 41 bis et la prison à vie. Et ce dernier a réitéré qu'il poursuivra sa grève de la faim jusqu'à son dernier souffle, contre 41 bis et la prison à vie. Écoutons la déclaration d'anarchiste de Foligno, le 29 octobre 2022.
Alfredo est un compagnon anarchiste qui a revendiqué les tirs dans la jambe du PDG d'Ansaldo, l'un des principaux responsables du nucléaire en Europe. Le lundi 7 mai 2012, à Gênes, il avait dans son esprit les morts de Fukushima et dans ses mains, il avait un pistolet. Aujourd'hui, comme il y a 10 ans, Alfredo prend sur soi l'initiative, comme à son habitude, sans délégation et sans compromis. Il le fait pour soi, il le fait pour nous tous, de façon que le précédent de l'utilisation du 41 bis de la part de l'État dans sa guerre contre les anarchistes ne passe pas.
La lutte d'Alfredo devient un instrument pour critiquer le régime de détention 41 bis et le système carcéral, pour dénoncer le fonctionnement du système judiciaire. On peut être condamné pour massacre, on peut être condamné à perpétuité, même en l'absence de victime. Alfredo est en 41 bis parce que l'on est dans une époque où la guerre revient en grande protagoniste, avec les prolétaires utilisés comme chair à canon, avec la flambée du coût de la vie, une nouvelle guerre, l'inflation est arrivée aux 12% en Italie, et tandis que nous sommes réduits à la faim, les profits d'Eni, la grande entreprise italienne du secteur de l'énergie, augmentent de 300%, et le nouveau gouvernement compte de nombreux représentants du lobby des armements. Dans un tel monde, de plus en plus de prolétaires pourraient décider d'abandonner la délégation et la résignation pour passer à l'action directe. C'est pour cela qu'Alfredo est en 41 bis, et aussi pour distraire l'anarchisme d'une participation à la guerre sociale de l'automne.
C'est pour cela que nous sommes solidaires avec Alfredo Cospito et pour la même raison, nous voulons que Nadia Liose, Roberto Morandi et Marco Mesa Salma aussi sortent du 41 bis. Parce que le fait historique qu'en Italie, notre classe a développé une lutte armée n'est pas effaçable. Vous n'arrivez pas à refouler ce traumatisme, même si vous deviez placer tout le prolétariat en 41 bis. Nous voulons détruire toutes les prisons, nous voulons que le 41 bis n'existe plus. Avec Alfredo, Nadia, Roberto et Marco à nos côtés, on a quelques espérances en plus d'y arriver. Oublier les prisonniers de la guerre sociale signifie oublier la guerre sociale elle-même pour un monde sans tôle et sans propriété privée. Donc ces extraits ont été pris.
Eh bien, y a des liens que l'on mettra sur le... Donc, lutter contre le 41 bis, noblog.org, et Paris Lutte Info, avec tous les textes d'Alfredo Cospito, donc, qui se passe depuis de longues années en prison.
Et pour terminer, donc, la Palestine, c'est toujours la prison à ciel ouvert?
Alors, donc, à ciel ouvert, mais aussi entre les murs. Cette semaine est une semaine internationale de soutien aux prisonniers palestiniens, avec à Paris un rassemblement pour la libération d'Ahmad Saadat, de Georges Abdallah et de Walid Daka et des prisonniers palestiniens. Donc à Paris, ça sera le 14 janvier, samedi. Il y a un message particulier pour les prisonniers palestiniens gravement malades, comme Walid Daka, qui ne reçoivent aucun soin de leur geôlier sioniste, alors que leur état réclame un suivi et une aide médicale urgente. Ahmad Saadat est secrétaire général du Front Populaire. C'est un combattant pour la libération de la Palestine. Il a été condamné à 30 ans de prison par un tribunal militaire de l'entité sioniste, accusé d'être à la direction d'une organisation interdite et pour incitation à la haine. Et ce 15 janvier 2023, cela fera 21 ans qu'il a été arrêté par l'autorité palestinienne dans le cadre de la coopération en matière de sécurité avec l'occupant sioniste. La justice française, quant à elle, aux ordres des gouvernements soucieux de préserver les intérêts impérialistes français au Moyen-Orient, maintient Georges Abdallah en prison depuis 39 ans. Aujourd'hui, Il est le plus ancien prisonnier politique en Europe.
Vous n'êtes pas sur France Inter, ce n'est pas Jean-Claude Amezen, c'est Philo sur Achaïra, sur la clé des ondes au 90.10.
À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floque et de Constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventre en graisse, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitant de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est un pègre, mais le populo leur dit, gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent les fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouges, bleus ou blancs. Il vaudrait mieux les pendre que leur foutre 25 francs. Tu leur fais des ripailles, toi peuple souverain. Et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois non plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Ce Cloque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement.
Faut plus de gouvernement, par Marc Augeret. Parole est de François Brunel et écrite en 1889. Marc Augeret, que nous diffusons régulièrement dans notre émission, est connu pour ses interprétations de chansons liées aux mouvements ouvriers, révolutionnaires et anarchistes. Engagé également en dehors du monde musical, Marc Augeret était militant au Syndicat français des artistes interprètes, SFA, et habitué des programmations musicales de Radio Libertaire et grand admirateur de la Commune de Paris. Vous écoutez Achaïra, émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes 90.1.
Et donc, l'éphéméride de Fabienne et Thierry. Enfin.
Merci Philippe. Philippe nous a introduit l'éphéméride. C'est fabuleux. Le 2 janvier 1873, à Cordoba, en Andalousie, se clôt le 3e congrès de la Fédération régionale espagnole. Le congrès adopte à l'unanimité les positions de l'international anti-autoritaire de Saint-Imier. Il est considéré comme le premier congrès anarchiste du mouvement ouvrier. Le 8 janvier 1883, à Lyon, début du procès dit des 66. Ils étaient 66 accusés. Il est reproché aux accusés d'avoir été affiliés ou fait acte d'affiliation à une société internationale ayant pour but de provoquer la suspension du travail, l'abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de la religion, et d'avoir ainsi commis un attentat contre la paix publique. Le 19 janvier, les prévenus liront une déclaration pour expliquer ce qu'est l'anarchie et ce que sont les anarchistes. Malgré cela, et peut-être pour cela, de très dures condamnations seront prononcées. Le 22 janvier 1905, c'est l'enterrement de Louise Michel. Un cortège de plus de 100 000 personnes accompagne son cercueil. Le préfet Lépine, qui tente de suivre le cortège, en est chassé par les anarchistes. Le 9 janvier 1911... Début des funérailles du poète de l'anarchie, Pietro Gori, mort sur l'île d'Elbe à 46 ans. Elles se dérouleront sur 3 jours pour permettre aux milliers de travailleurs venus de toute la Toscane saluer le chevalier errant de l'anarchie. Cet hommage populaire sera largement relayé par les journaux et les publications anarchistes.
Et le 9 janvier aussi, 1943, c'est-à-dire il y a juste 80 ans aujourd'hui, mort de Giovanni Rossi, qui est un vétérinaire, écrivain, professeur et socialiste libertaire italien, fondateur de 2 communautés libertaires, dont la fameuse Colonia Sicilia au Brésil en 1890. Alors, il publiera en 1893 un livre, Sicilia, communauté anarchiste, et un autre livre, Épisode d'amour à la Sicilia, sorte de chronique de vie communautaire. Il quitte cette collectivité un peu avant sa dissolution en 1894. Il reste au Brésil où il reprend son activité de vétérinaire et spécialiste en agronomie. Puis il rentre en Italie, il poursuit son métier et soutient toujours à fond les activités libertaires.
Le 29 janvier 1911, au Mexique, offensive du Parti libéral mexicain de Ricardo Flores Magón. Mouvement révolutionnaire libertaire qui a pour devise Tierra y Libertad. La ville de Mexicali est conquise sous la conduite de Simon Berthold et José María Leiva. La révolution s'étend aux autres provinces du Mexique. Les magonistes, aidés par de nombreux internationalistes auxquels se joignent des membres des IWW, vont durant 5 mois faire vivre la commune de Basse-Californie, expérience du communisme libertaire, abolition de la propriété, travail collectif de la terre, formation de groupes de producteurs, etc. Le 12 janvier 1913, au Costa Rica, création de la Confédération Générale des Trabajadores, CGT, organisation anarcho-syndicaliste ayant pour base la démocratie directe. Elle luttera et assurera la solidarité aux travailleurs en lutte contre le capitalisme durant une dizaine d'années. Le 2 janvier 1920, aux États-Unis, dans un climat de violence sociale, les autorités tentent de faire taire toute opposition. 6 000 mandats d'arrêt sont ainsi lancés contre les étrangers afin de le déporter, ce qui déclenche de nouvelles actions des anarchistes. Le 18 janvier 1932, en Catalogne, dans la région minière du Haut Llobregat, le communisme libertaire est proclamé. Le gouvernement mate l'insurrection en une semaine. 100 de militants seront déportés à Rio de Olo, dont Ascaso et Doluti. Le 7 janvier 1933, à Barcelone, évasion de la prison Modelo de plusieurs militants anarcho-syndicalistes de la CNT grâce à un tunnel creusé depuis l'intérieur et communiquant avec les égouts.
Du 8 au 12 janvier 1933, soulèvements anarchistes et grèves insurrectionnelles dans toute l'Espagne à l'appel de la CNT-FAI. Nombreux incidents, explosions de bombes en plusieurs lieux, dont en particulier au commissariat central de Barcelone, tentatives pour s'emparer des casernes, des mairies, des radios, qui se soldent par des fusillades nourries avec la garde civile. En Andalousie, les anarcho-syndicalistes s'emparent des édifices publics et y proclament le communisme libertaire. Le 2 janvier 1965 à Naples, une bombe explose au consulat d'Espagne. L'attentat est revendiqué par les anarchistes espagnols de la CNT-FAI et FUL, qui déclarent « Tant que le peuple ibérique continuera à être opprimé par la dictature fasciste, la dynamite rappellera que la voie de la liberté ne peut être étouffée. Vive l'anarchie !» Le 15 janvier 1978, alors qu'une manifestation organisée par la CNT légalisée depuis 6 mois regroupe plus de 10 000 personnes protestant contre les pactes de la Moncloa, attribuant aux seules organisations syndicales communistes, CCOO et UGT socialistes, le droit de représenter les travailleurs.
la salle des fêtes La Scala est incendiée par des inconnus, provoquant la mort de 4 personnes, dont 2 travailleurs du syndicat du spectacle de la CNT. Mais c'est dans le milieu anarchiste et anarcho-syndicaliste que la police dirige ses investigations, arrêtant de nombreux militants qui sont insultés et torturés. En décembre 1980, ils seront condamnés à de lourdes peines de prison lors d'un procès truqué, placé sous haute surveillance policière. Le 30 janvier 1978, toujours, à Barcelone, 50 anarchistes sont arrêtés et accusés de vouloir reconstruire la faille. Franco est mort, mais les vieilles peurs de voir renaître une puissante organisation révolutionnaire sont toujours là. Et enfin, le 1er janvier 1994, au Mexique, soulèvement des Indiens du Chiapas au cri de « Ya basta », ça suffit, ils refusent l'ordre politico-économique mondial imposé. Si ce mouvement n'est pas spécifiquement anarchiste, il est un bel exemple de résistance de la fin du siècle et du début du XXIe siècle.
Oui, tout petit rattrapage d'éphéméride. Il y a 100 ans, juste, naissait l'AIT. Il y a exactement 100 ans. C'était du 25 décembre 1922 au 2 janvier 1923. Des délégués ouvriers venus de tous les continents se réunissaient à Berlin pour fonder l'Association internationale des travailleurs AIT, reprenant le flambeau de la Commune de Paris et de la première internationale anti-autoritaire, et s'appuyant sur des expériences acquises par leur participation active aux révolutions mexicaines, russes, ukrainiennes, allemandes ou italiennes des années 1920. Voilà, c'est peut-être la fin de cette éphéméride.
Oui, c'était la fin de l'éphéméride.
Et donc, ça, c'est l'agenda militant de janvier 2023.
C'est de plus en plus obscur, ces annonces.
Non, mais...
La nuit s'enfonce et nous voilà. Y allons tranquillement.
Mais Esmeralda a la voix claire et elle a une alerte à nous donner.
Voilà, on a reçu une alerte, pas plus tard qu'hier, une alerte qui nous était relayée par notre camarade Serge du groupe Gaston Leval à propos de l'existence du métron. Et il reliait un texte nous disant « Le métron est-il en danger ?» Le fameux dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, devenu mouvement ouvrier, mouvement social, créé par Jean Métron il y a 60 ans, en 1964, et dirigé depuis son décès en 1987 par Claude Pennetier, qui lui a donné une grande ampleur, voit sa partie publication de son site metron.fr bloquée, et ce depuis le 8 décembre 2022 par le CNRS. Et ça s'est passé brusquement, sans négociation, avec la direction du Métron. Ce site de 225 000 entrées a été consulté 100 000 fois en novembre. Il doit rester actif et réactif. Mais pour le moment, il est paralysé pour une durée indéterminée. En fait, ce site est hébergé par le CNRS. Donc, l'idée est de demander la remise en activité de la partie coopérative, dite partie privée, pour permettre les mises à jour, les balisages et la saisie de nouvelles biographies, ce qui est tout à fait indispensable, également de nourrir les travaux statistiques et l'accès aux mots-clés pour préparer des publications. Donc, demande de la reprise du dialogue entre le CNRS et la direction du Métron, et il y a une sorte de pétition qui s'est enclenchée, puisqu'on nous dit de répondre à protestation au singulier, protestation@metron.l'autre.net. Nous mettrons cette adresse sur notre site.
Voilà ce que nous voulions vous signaler en appendice, en fait, de l'agenda. Ou en préambule. Le mardi 10 janvier, alors là, c'est la présentation par le gouvernement de la réforme des retraites, initialement prévue pour le 16 décembre 2022. Donc, le gouvernement va dévoiler son projet. Si le gouvernement reste borné sur son projet, et borné, c'est bien le terme, l'intersyndicale, et alors là, attention, tout le monde est là, hein, CFDT, CGT, FO, CGC, CFTC, UNSA, Solidaires et FSU, a déjà prévenu, il faudra s'attendre à des grèves et des manifestations d'ampleur en janvier. Donc pour l'instant, à ce stade, nous n'avons pas de date, mais donc restez informés, à moins que Philippe en sache plus.
Non, l'annonce doit être faite demain soir. Il y a des réunions aujourd'hui, il y a une annonce qui doit être faite demain au niveau national. Après les annonces de... Comment il s'appelle Borne.
Oui.
Voilà.
Pas borné.
Jeudi 12 janvier 2023 à 18h30 à Bordeaux à la Maison des Femmes, 27 cours Alsace-Lorraine. Dans le cadre de l'Université populaire du féminisme, Magali Della Souda présente Les nouvelles femmes de droite. Bon, bah voilà, on en a déjà parlé. Mais pour ceux qui veulent la voir en direct, donc vous pouvez aller le 12 janvier à 18h30.
On peut voir et revoir.
Et réentendre. Voilà. Donc, Esmeralda, tu avais quelque chose à dire pour,
oui,
sur France Inter.
Oui, voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, nous disions tout à l'heure, nous ne sommes pas sur France Inter. Eh bien, non, nous sommes sur la clé des ondes. Mais pour une fois, nous relayons quelque chose qui se passe sur France Inter. Et donc, ce sera à partir du samedi 14 janvier, puis le 21 janvier. Enfin, c'est les samedis à 18h05. Et c'est un rendez-vous, donc, sur France Inter. Avec différents volets sur l'anarchisme. Et oui, même France Inter s'intéresse à l'anarchisme. Donc c'est dans l'émission qui s'intitule « Enquête de politique ». Et là, vous pourrez retrouver nos camarades bien-aimés dont nous parlons régulièrement, Philippe Pelletier, Tancrède Ramonet, Édouard Jourdain, Marianne Henkel, du CIRA, etc., etc., également Gandini, oui. Voilà, donc, au cours d'émissions qui durent 50 minutes. Alors, la première a déjà eu lieu, c'était samedi dernier, où l'on a entendu Tancrède et Édouard Jourdain, c'est ça. Et puis, donc, les autres sont à venir, la prochaine, et sur les anarchistes individualistes. Voilà.
Vendredi 20 janvier à 20h15 à l'Utopia, Bordeaux, soirée débat sur un film, La Résistance, non c'est pas un film, sur la résistance asturienne contre Franco, organisé par l'association Ay Carmela. Projection de Amano Almada, suivi d'un débat avec Omar Touero, réalisateur du film, Aaron Zazou, Saria Bulli, historienne, maître de conférences en civilisation de l'Espagne contemporaine à l'Université Bordeaux-Montaigne, et Bernard Lavallier, professeur de civilisation hispano-américaine à l'Université Sorbonne-Nouvelle, Paris, 3e arrondissement. En 1937, les troupes nationalistes de Franco s'emparent des Asturies et une répression féroce s'abat sur la région, comme plus tard sur toute l'Espagne. Des Asturiens prennent alors le maquis pour poursuivre la lutte, les armes à la main. Ce documentaire, basé sur les témoignages des survivants, retrace l'histoire de ces combattants antifascistes pendant les années 40. Isolés dans la montagne, ils continuent de se battre contre la dictature. Ce documentaire a remporté le prix du meilleur documentaire à l'International Film Marker Festival de New York.
Et dites-moi, j'ai oublié quelque chose, mais moi le 17 janvier, je suis en grève. Et on a oublié ça, mais je suis en grève parce qu'il y a un appel.
Je ne l'avais pas dit,
oui. Donc, c'est une grève dans l'enseignement professionnel. Donc, à l'appel du SNES, du SNUEP, du SNETAP. Et donc, c'est contre la réforme de la voie professionnelle, évidemment, pour l'augmentation des salaires. Donc, il y aura une manifestation devant le rectorat de Bordeaux le 17 janvier. Voilà.
À quelle heure ?
J'ai pas l'heure. Je la ferai passer pour le plat de résistance.
D'accord. Donc, nous continuons. Le dimanche 22 janvier à 18h30 à Pessac, au cinéma Jean Eustache, avant-première Alice avec l'équipe du film. Alice est un film documentaire colombien réalisé dans un refuge pour adolescentes à Bogota, dans lequel plusieurs jeunes filles sont invitées à nous parler d'une camarade fictive qu'elles ont appelée Alice. L'histoire qui en découle, bien que fictive, est le reflet de leur vie et de leurs expériences. Projection en présence de Claire Westcop et Nicolas van Hamelirk, les réalisateurs et réalisatrices.
Le jeudi 26 janvier, à 18h30, de 18h30 à 21h15, à Villeneuve-Nornon, l'AGAP, donc l'Association Girondine pour l'Agriculture Paysanne, organise une conférence débat sur le thème « Repenser son rapport aux énergies en agriculture dans un contexte de changement climatique ». Alors, il y a une jauge pour la salle, donc les inscriptions sont à faire au 06 18 73 27 66.
Oui, et un événement qui commencera le 31 janvier, mais nous ne pourrons pas en parler lors de notre prochaine émission. C'est le festival La Classe Ouvrière, c'est pas du cinéma. Donc en fait, il va se dérouler du mardi 31 janvier au dimanche qui suit. Le premier soir, il y aura un film interdit aux chiens, aux Italiens, un film d'animation. Et le deuxième jour, c'est ce qui a particulièrement attiré notre attention, le deuxième jour, c'est-à-dire le mercredi janvier, c'est une... mercredi 1er février, c'est une journée hommage à Jean-Louis Comolli, dont vous savez qu'il est mort au mois de mai dernier. Et Jean-Louis Comolli, cinéaste, critique de cinéma, également amateur de jazz. Et donc Jean-Louis Comolli qui a réalisé un film qui s'appelle La Cécilia. Donc, ça fait le joint avec notre éphéméride, nous avons parlé de Giovanni Rossi. Et donc ce film La Cécilia sera projeté à 20h30 le soir. J'ai dit que c'était une journée parce que effectivement dès le matin à 9h30 à midi au musée d'Aquitaine, il y aura un film documentaire intitulé Jean-Luc Comolli, filmé pour voir, présentation et débat, avec la réalisatrice Ginette Lavigne, qui est aussi monteuse de plusieurs films de Comolli, et Gérard Collas, qui est producteur des films. Et l'après-midi, dès 14h30, enfin de 14h30 à 17h au cinéma Utopia, il y aura également Les Esprits de Cognambo, suivi de L'être à une jeune fille Kanak, également de Jean-Louis Comolli. Ce sont des films qui seront suivis d'un débat et, comme nous l'avons dit, à 20h au cinéma, donc il y aura La Cécilia de Jean-Luc Comolli. Juste, j'en profite pour rappeler que Comolli a fait également un film qui s'intitule L'Ombre Rouge, et il ne sera pas projeté là. Mais c'est un film très intéressant de 1984 sur la guerre d'Espagne, l'aide des soviétiques qui a été retirée en avril 1937 par Staline, et qui a été retiré aux anarchistes, aux trotskistes et aux socialistes. Voilà, bon, ça c'était une incise. Donc voilà le programme du mercredi 1er février. Et nous continuons.
Non, je voulais juste dire que Comolli a fait aussi un film où il reprend toutes le Durruti et une expérience qui a été faite au théâtre à Barcelone, je crois.
Oui, c'est plus une captation d'une pièce de théâtre, oui, sur Durruti. Voilà. Donc ça, c'était le programme du mercredi 1er février. Et le jeudi 2 février, le festival continue. Avec une journée sur le travail invisible et la projection le soir en avant-première de L'Établi, d'après le livre de Robert Linard. Le vendredi 3 février, c'est une journée cinéma-littérature, la question du temps dans l'adaptation cinématographique, avec séance au musée d'Aquitaine le matin et l'après-midi, des films également au cinéma Utopia. Le samedi 4 février, là, les séances seront centrées sur le cinéma ukrainien. Et le dimanche, eh bien, ce sera autour du cinéma, autour du Mozambique. Voilà le programme de La Classe Ouvrière, c'est pas du cinéma. Et ça commence le 31 janvier pour se terminer le dimanche 5 février. Et notre émission. Elle sera le 6. Voilà.
Ah oui. Et je pense que Rémi a fait un enregistrement dont il pensait que l'on pourrait en parler par rapport à Gwenola Ricordo.
Ah oui, alors tout à fait, puisque c'était vendredi 6 janvier, ou pourquoi pas, il y avait plus de 150 personnes. C'était organisé par l'OAB, FACAP et la librairie du Muguet. Donc c'était une conférence intitulée « Au nom du livre 13-12, alors 1312 raisons d'abolir la police ». On verra le jeu de mots sur qu'est-ce que signifie 13-12. Donc la clé des ondes était là puisqu'on a enregistré et on pense qu'on va avoir de meilleures conditions qu'on a eues pour Magali de la Souda. Alors, on essaiera d'en extraire les meilleurs morceaux pour vous. Et puis j'ai l'impression que on va régulièrement passer les conférences organisées par la librairie du Muguet. Voilà. Est-ce que ça ne serait pas la fin de cette émission? Pas tout à fait.
On va demander à Philippe.
Ah ben, moi, je peux vous dire que oui, c'est la fin.
Alors, surtout, on a une chance assez exceptionnelle ce soir, parce que on ne va pas mettre les bandes, on ne va pas passer la musique après, c'est-à-dire que pour les auditoristes de La Clé des Ondes, eh bien, restez avec nous ce soir sur La Clé des Ondes, car nous avons la chance d'avoir une nouvelle émission intitulée Errance nocturne avec Sarah Luna aux manettes. Au programme ce soir, de l'actualité culturelle, des chroniques et surtout une interview, enfin que dis-je, une exclusivité. Et oui, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir entendre le témoignage du groupe de death metal Norns, voilà, originaire de Valence. Alors, nous, on vous quitte, on vous revoit dans un mois.
On peut mettre le générique de fin. Oui.
De Valenciennes, qu'est-ce que j'ai dit de Valenciennes? Valenciennes.
Valence.
On se retrouve dans 3 semaines avec toujours des infos, des interviews. Et on va tous se dire au revoir. On va dire au revoir à nos éditeurs. Vas-y.
On pourra essayer de se retrouver le 6 février 2023.
Avec une voix.
Sur une meilleure voix. Voilà.
Jean-Claude Amezen, vas-y.
Je vous dis au revoir, chers auditeurs, chères auditrices.
Oh.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Allez, attention.
Au revoir.
C'est à Sarah Luna. Elle va nous passer directement de la musique. Donc on va préparer le pendant le blanc avant que tu passes de la musique. Voilà, elle a 2 minutes. Alors peut-être que nous, est-ce qu'on passe un générique de fin pour laisser Sarah Luna?
Ah, oui. On a un bouton.
Ah non, apparemment Alain a abandonné les manettes. Et d'ailleurs on s'excuse hein, parce que apparemment il y avait un micro qui n'était pas enregistré et Esmeralda, il faut que je le dise, une partie de ce que tu as dit n'a pas été réellement entendue. Voilà, donc c'est tu recommenceras, c'est la patte Achaïra, on va dire. C'est voilà, on est aux techniques, donc c'est bon pour toi, Sarah. Allez, c'est parti. À très bientôt, et c'est Errance Nocturne, vous êtes sur La Clé des Ondes, au 90.10. À très bientôt.
Et il est 21h59.
Voilà.